chemin de vie. Chers amis, bienvenue. Comme les jours passent vite, n'est-ce pas? Le week-end à peine achevé, nous sommes déjà lundi. Heureusement, nous allons amorcer cette semaine dans la bonne humeur par notre rubrique chemin de vie.
Au micro Jean, en compagnie d'Heidi, Daniel à la technique, sans oublier Jacques Yosti, qui dans quelques instants va nous ouvrir une nouvelle page du chapitre 2 du livre du Cantique des Cantiques.
Une scène insolite se profile à l'horizon. Nous entrons dans l'intimité de nos deux amoureux dans un cadre lumineux avec des mets savoureux. Quel bonheur ! En attendant ces moments, nous vous proposons une chanson intitulée « Ton amour est si grand » que nous interprète le groupe Solideo.
Ton amour est si grand pour tous ceux qui craignent ton nom. Chaque jour tu répands ta grâce et ta bonté. Tu offres ton pardon, un refuge dans ta présence. Loin du péché, bien protégé par ta bonté. Loin du péché, bien protégé par ton amour. Ton amour est si grand pour tous ceux qui craignent ton nom. Chaque jour tu répands ta grâce et ta bonté. Tu offres ton pardon, un refuge dans ta présence. Loin du péché, bien protégé par ta bonté.
L'existence est une suite de circonstances très variées, certaines douloureuses et d'autres plaisantes. Ainsi va la vie. Il faut donc savoir profiter des bons moments quand ils se présentent à nous. Les festins, par exemple, sont souvent des occasions de se réjouir et font partie des événements de ces petits bonheurs qui agrémentent le cours des jours et qu'il est bon d'apprécier. Je reprends la 7e photo de l'aventure amoureuse entre Salomon et sa bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. Il m'a conduit dans la maison du vin et il a déployé sur moi l'étendard de l'amour. Restaurez-moi avec des gâteaux de raisin. Soutenez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que son bras gauche soutienne ma tête et que son bras droit m'enlace. Ô fille de Jérusalem, « Oh, je vous en conjure par les gazelles ou par les biches de la campagne. N'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. » Chapitre 2, versets 4 à 7. Salomon a conquis la dévotion de cette jeune femme, Sulamite, et tous deux se réjouissent ensemble de l'amour intense qu'ils ont l'un pour l'autre dans la salle des fêtes du palais royal. Elle est tellement heureuse et radieuse qu'elle en est exténuée. Aussi beau que soit l'amour humain, il n'est pourtant qu'un pâle reflet de l'amour de Dieu pour ses enfants, les croyants, qui ensemble constituent l'Église universelle, surtout qu'un jour, elle deviendra l'épouse du Christ lors d'un événement céleste tout à fait prodigieux, qui s'appelle le festin de noces de l'agneau. J'avoue que c'est à peine croyable et pourtant ce mariage sera célébré. Je résume le passage qui en parle. « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia !» Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des croyants. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Fin de citation. Mais sans attendre cette occasion extraordinaire qui aura lieu dans les cieux au travers des siècles, Jésus a déjà apporté une joie indicible à d'innombrables personnes. Ainsi, suite à l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, comme quoi elle donnerait naissance au Sauveur, elle alla voir sa parente, Élisabeth, qui était elle aussi enceinte de celui qui devint Jean-Baptiste. Puis, dans ce qu'on appelle le Magnificat, Marie a rendu grâce, disant « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. » Jésus naquit comme prévu et les bergers allèrent le voir dans la crèche. Je lis le passage. « Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. » Puis, 40 jours après cette naissance miraculeuse, ses parents ont emmené Jésus au temple, et là, sa présence a fait la joie d'un certain Siméon, un homme juste et pieux qui attendait la venue du Messie. Je lis le texte. Siméon le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Fin de citation. Ce n'est pas tout. Car ce même jour, Anne, une prophétesse qui servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières, survint elle aussi. À cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Pour Siméon et Anne, le temple se transforma en une immense salle des fêtes, car ils eurent une très grande joie à tenir dans leurs bras l'enfant Jésus qu'ils attendaient depuis si longtemps. La Sulamite est tellement amoureuse qu'elle soupire à haute voix. « Que son bras gauche soutienne ma tête et que son bras droit m'enlace, car elle souhaite de tout son être que son bien-aimé la prenne et la serre dans ses bras dans une étreinte ardente. » On trouve fréquemment de telles images amoureuses dans les chansons à la mode. La main sous la tête est un geste de protection. C'est comme ça qu'on tient un bébé parce que les muscles de son cou ne sont pas suffisamment développés pour soutenir sa tête qui est relativement lourde par rapport au reste du corps. Le bras qui enlace est un signe d'affection et de tendresse. Selon l'interprétation typologique, on peut faire une translation de l'aspiration passionnelle de la Sulamite au domaine spirituel. En effet, un croyant qui se trouve dans une mauvaise phase de sa vie et peut-être dans une grande détresse, sera poussé à faire une requête semblable. Il invoquera Dieu intensément demandant sa protection, son soutien et la manifestation de sa présence. Pour un couple d'amoureux, le désir d'expression physique est chose normale. Mais contrairement à des idées reçues, il n'y a aucun mal à contrôler ses pulsions naturelles et attendre le mariage pour les satisfaire. Dans le livre de l'Ecclésiaste, aussi écrit par Salomon, il est dit « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil, un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. » Fin de citation. Nous savons très bien par expérience que nous devons faire tout notre possible pour tenir nos émotions, notre langue et notre corps en bride dans nos relations avec nos semblables, que ce soit à la maison, au travail, avec les confrères ou ailleurs dans la vie de tous les jours. Quand quelqu'un me regarde de travers ou me fait une queue de poisson sur la route, je ne lui rentre pas dans l'art, je reste maître de moi. C'est ça la vie civilisée. Le refrain « Ô filles de Jérusalem, ô je vous en conjure par les gazelles ou par les biches de la campagne, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille » apparaîtra encore deux fois. D'un point de vue littéraire, il sert à structurer le texte en indiquant la fin d'une section et le début d'une autre. Les gazelles et les biches sont des animaux agiles, charmants et très gracieux qui s'enfuient au moindre bruit. Ils représentent la délicatesse de l'amour qui unit les deux jeunes gens. Tout comme on ne peut pas forcer une fleur à éclore, car ça ne ferait que déchirer les pétales, on ne peut pas non plus fabriquer l'amour, le brusquer ou le contraindre. Soit dit en passant que ce n'est pas en couchant qu'on crée l'amour. La Sulamite désirait de tout son cœur épouser son bien-aimé et se donner entièrement à lui, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas précipiter les choses et qu'il fallait du temps pour que leur union arrive à maturité et se concrétise dans le mariage. Alors, leur amour trouverait enfin sa pleine réalisation. La première fois qu'elle avait pénétré dans le palais royal, elle n'était pas du tout rassurée, mais depuis, sa relation avec Salomon a bien évolué et maintenant elle se sent en parfaite sécurité auprès de son bien-aimé. Comme elle est follement amoureuse, mais doit se montrer patiente, elle entre en transe qui est un état à mi-chemin entre le rêve et l'éveil et qui est un moyen d'accélérer le temps et de maîtriser ses sentiments. La transe est un état naturel qui fait partie de notre quotidien puisque nous l'expérimentons tous juste avant de nous endormir. Et quand on constate qu'un enfant est distrait, qu'il a la tête ailleurs, comme on dit, c'est qu'il est dans cet état second où il est tellement absorbé par quelque chose qui l'intéresse que tout le reste s'estompe. Il ne vous entend plus et les devoirs qu'il devrait être en train de faire ont disparu. La première fois que les filles de Jérusalem ont fait leur apparition, elles n'étaient pas très sympas à l'égard de la Sulamite. Mais depuis, les choses se sont sensiblement améliorées au point où certaines de ces femmes sont maintenant attachées à sa personne, ce qui est normal pour une future reine. C'est donc à ces dames de compagnie que la Sulamite s'adresse quand elle leur demande de la laisser seule, de ne pas la déranger et donc de ne pas la faire sortir de son rêve éveillé en l'obligeant à revenir à la réalité avant qu'elle-même ne le souhaite. Dans une certaine mesure, la situation de la bien-aimée peut être comparée à celle d'un ivrogne qui cuve son vin. Comme lui, elle ne veut pas être réveillée avant d'avoir fini de cuver son amour. Selon l'interprétation typologique, l'état de transe de la Sulamite devient l'adoration au niveau spirituel. Si on observe un adepte sincère en prière de n'importe quel système religieux, que ce soit l'animisme tribal, les sectes les plus farfelues, ou ce qu'on appelle les grandes religions, on constate qu'il est dans un état second, plus ou moins extatique. Selon l'enseignement judéo-chrétien, les croyants de l'Ancienne Alliance devaient vénérer l'Éternel, leur Dieu, au moyen de rites complexes et surtout par des sacrifices d'animaux, mais aussi par des offrandes d'aliments végétaux comme la fleur de farine et l'huile, des libations de vin ou d'eau et de l'encens. Il y avait aussi la récitation de la loi, les chants et la musique sacrée qui étaient dirigés par les chantres. L'objectif de ce culte était de conduire l'assemblée à adorer l'Éternel. Sous la Nouvelle Alliance aussi, les croyants sont appelés à l'adoration de leur Dieu, mais ce n'est plus par des rites comme sous le régime de l'Ancien Testament, parce que ceux-ci ont été parfaitement accomplis en la personne, la vie, la mort et la résurrection du Christ. À la femme samaritaine, Jésus a dit « L'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père, mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. » Fin de citation. Jésus a bien choisi ces mots. Il a précisé « en esprit » par opposition au rite, et il a utilisé le mot « vérité » pour différencier le culte au vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, des autres fausses divinités conçues par les élucubrations religieuses humaines. Quand un croyant adore le Seigneur, il ressent parfois la présence et l'amour de Dieu de manière si vive que son expérience émotionnelle l'épuise physiquement. Le corps humain n'est pas conçu pour pouvoir rester dans un tel état très longtemps, à moins qu'il ne soit soutenu par une intervention surnaturelle, représentée dans le texte par les gâteaux de raisin et les pommes. L'hiver est passé. C'est le printemps et les amoureux vont mettre à profit les beaux jours pour intensifier leur relation et se préparer ainsi au mariage qui ne va plus tarder. La Sulamite est retournée au Liban chez elle, probablement parce que quelques ombres se sont mises à planer sur leur relation. On peut penser que Salomon aurait désiré que sa bien-aimée reste avec lui à Jérusalem, mais la complexité de la vie de cour et tous les « m'as-tu vu ?» qui traînaient dans les couloirs lui ont fait languir la vie simple de sa campagne natale. Alors elle est retournée dans son pays. Heureusement pour nous, notre paparazzi suit de très près toutes les péripéties du couple et a pris un huitième cliché de leur aventure amoureuse et en couleur cette fois-ci. En effet, toute la féerie printanière, ses couleurs vives et ses tons pastels sont sur la photo. C'est une éruption de vie, mais rien n'est aussi charmant que le bien-aimé qui fait la cour à sa belle afin de gagner son cœur. Je continue à lire le texte du chapitre 2. C'est la Sulamite qui s'exprime. « J'entends la voix de mon bien-aimé. Oui, le voici, il vient sautant sur les montagnes et bondissant sur les collines. Mon bien-aimé ressemble à la gazelle ou à un jeune cerf. Le voici, il est là, derrière notre mur, guettant par les fenêtres et lançant des regards à travers les treillis. Mon bien-aimé me parle et il me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car l'hiver est passé et les pluies ont cessé, leur saison est finie. » On voit des fleurs éclore à travers le pays et le temps de chanter est revenu. La voix des tourterelles retentit dans nos champs. Sur les figuiers, les premiers fruits mûrissent. La vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe, nichée aux fentes du rocher, cachée au plus secret des parois escarpées, fais-moi voir la figure de ton corps et entendre ta voix, car ta voix est bien douce et ta figure est charmante. » Versets 8 à 14. Les pluies de mars-avril qui ont accompagné la fin de l'hiver donnent maintenant naissance aux premiers signes du printemps, la saison qui est traditionnellement associée à l'amour et qui constitue le décor de presque toute la littérature romantique. Cette description très élaborée peint une nature en fait qui comble tous les sens. La beauté et le parfum des fleurs, le chant des oiseaux et les premiers fruits du figuier. Le printemps est porteur d'une vie nouvelle où la joie et les couleurs ont triomphé sur la grisaille de l'hiver. Mais ce tableau est aussi une réflexion de l'expérience fabuleuse de Salomon avec sa bien-aimée. Quand quelqu'un tombe amoureux, il a l'impression que tout est transformé, rajeuni et prend un ton lumineux autour de lui. C'est le sentiment qu'éprouvait Salomon quand il était en compagnie de sa belle. Le poète anglais Coleridge a écrit « Quand vient l'amour, les arbres murmurent, les roses exhalent leur parfum ». Les rossignols chantent et même le ciel sourit en unisson avec le sentiment de l'amour vrai et pur. Fin de citation. Selon l'interprétation typologique, Salomon représente Dieu et la Sulamite, le croyant. Ce qu'elle dit ici, « J'entends la voix de mon bien-aimé », fait penser aux paroles de Jésus quand il déclare « Mes brebis écoutent ma voix ». Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Fin de citation. L'Église universelle se compose de tous ceux qui ont entendu parler de la mort de Jésus sur la croix, de sa résurrection et de la nécessité d'un tel sacrifice. Ils ont écouté sa voix et l'ont accepté comme sauveur et seigneur. Lors d'un événement fabuleux qui s'appelle l'enlèvement de l'Église, Jésus lui-même va descendre du ciel pour venir chercher son Église et ce sera une ascension triomphale. Je lis le passage. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Fin de citation. Il se peut qu'alors Jésus dise à l'Église, sa bien-aimée, quelque chose comme « Lève-toi, mon ami !» Ma belle, et viens, ce que Salomon a dit à la Sulamite. L'enlèvement de l'Église sera suivi par 7 années de jugement décrites dans le livre de l'Apocalypse, puis un autre phénomène prodigieux se produira, le retour du Seigneur Jésus-Christ pour régner. Cet événement ne se fera pas en catimini, car le monde entier en sera témoin. Je lis de passage. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. » Fin de citation. Puis, après un règne de 1000 ans, ce sera la fin et la destruction de ce monde et du cosmos. La Sulamite dit aussi « Il vient sautant sur les montagnes et bondissant sur les collines ». Mon bien-aimé ressemble à la gazelle ou à un jeune cerf. Montagnes et collines représentent symboliquement les difficultés de la vie et elles sont sans nombre comme chacun sait. Mais cette image du bien-aimé qui pratiquement vole au-dessus du terrain accidenté montre que rien n'est trop haut ou trop difficile pour l'empêcher de venir auprès de celle qu'il aime. Pareillement, il n'existe aucune circonstance dans la vie d'un croyant qui puisse barrer la route à l'amour que Dieu a pour lui. À ce sujet, j'ai déjà eu l'occasion de rapporter les paroles de l'apôtre Paul quand il a écrit « Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? la détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Fin de citation. Enfin, Salomon, qui est une image du Seigneur, est décrit sautant et bondissant comme un jeune cerf, ce qui dénote sa belle prestance, sa force et son agilité. C'est aussi une belle image pour représenter Jésus après la résurrection.
Tu as mis la vie où il y avait la mort, détruit les chaînes qui me tenaient encore.
Durant cet intermède musical, vous avez pu entendre Pat Solo chanter ce titre « Ma joie ». Nous avons passé un agréable moment ensemble et avant de laisser la place au programme suivant, nous avons le plaisir de vous communiquer notre adresse internet chemindevie.info avec chemins au pluriel et le tout en un seul mot, chemindevie.info. Nous vous communiquons aussi nos coordonnées téléphoniques
0820 200 628.
0820 200 628, c'est un numéro Indigo.
Pour toute suggestion ou question, ne tardez pas pour nous appeler pendant les heures de bureau. Nous sommes là pour répondre à vos attentes. Vous pourrez également obtenir une Bible à titre gratuit et sans engagement. Nous vous rappelons le numéro 0820 200 628. Au revoir.
À demain, même heure.